D'après le sujet de ce soir, prévu dans le programme, je dois vous parler de Midrashim, sur la révélation, d'après l'interprétation du Maharal, et en particulier dans le Be'er HaGola. Le Be'er HaGola du Maharal est un livre important, est un petit livre, très important, parce qu'il se préoccupe de formuler en langage compréhensible pour la civilisation occidentale de son temps, qui était celle de la Renaissance, et nous profitons de son enseignement dans un moment historique assez analogue d'ailleurs, puisque c'est le moment d'une mutation culturelle, de formuler donc la forme exacte, littérale, des Midrashim de la Torah, qui se trouve soit dans les livres du Midrash, soit dans le Talmud, de telle sorte de les rendre accessibles à des catégories de pensée assez différentes malgré tout, des postulats spirituels de l'expérience de la tradition hébraïque de façon spécifique. Et on peut mettre en évidence que la préoccupation principale d'un point de vue méthodologique du Maharal concernant le problème de la révélation a été de poser la question suivante. Comment comprendre que ce qui est par nature et par définition inaccessible à l'homme ait été rendu accessible à l'homme ? Par définition, si c'est Dieu qui révèle sa parole, Dieu étant défini comme le créateur, comme l'autre absolu du monde, alors une difficulté théorique apparaît. Comment se fait-il que Dieu puisse parler à l'homme, que l'homme puisse écouter et comprendre ? Tout simplement, au fond, cette question pourrait se formuler ainsi. Comment la révélation peut-elle être possible ? La question est importante parce que si on ne l'élucide pas, alors il y a toujours ce doute que peut-être la révélation n'a pas eu lieu et qu'il s'agirait de la part d'un peuple très sage, le peuple d'Israël, d'une sorte de pieux mensonge qui se serait référé à la référence à la parole de Dieu pour diffuser ou formuler une sagesse qui ne serait qu'humaine. Vous voyez que je vais directement au fond du problème et c'est effectivement dans ces termes que le Maharal a posé la question. Je vais donc commencer par un midrash à ce sujet qui se trouve dans la Maseret Shabbat, page 89, et qui raconte un dialogue entre les anges et Moïse lorsque Moïse est monté au ciel pour recevoir la Torah. Il y a dans ce midrash beaucoup de thèmes, mais nous essaierons, comme d'habitude, d'isoler, enfin de mettre en évidence un thème principal qui se réfère à la question posée d'après le Maharal, comme je vous l'ai cité. Mais déjà dans l'énoncé du Midrash, lorsque Moïse est monté au ciel pour recevoir la Torah, il y a eu un dialogue de contestation de la part des anges. Déjà dans l'énoncé, vous voyez que tous les termes posent problème. Que Moïse monte au ciel, c'est déjà un problème. Qu'est-ce que ça peut signifier pour une mentalité humaniste, disons ? Qu'il reçoive la Torah de Dieu, de quoi s'agit-il ? Comment rendre cela vraisemblable ? Et qu'est-ce que c'est que les anges ? Et pourquoi les anges contestent ? Alors, nous avons bien à l'esprit toutes ces difficultés. Nous allons essayer de comprendre ce que les maîtres du Talmud ont voulu nous communiquer ou nous transmettre à ce sujet. La question principale étant, comment la révélation peut-elle être possible ? C'est le problème, si vous voulez, théologique de fond. Et puis, dans le déroulement de l'analyse, se poseront un certain nombre de questions, et j'espère avoir à provoquer les vôtres, parce que, au fur et à mesure des années, l'expérience me montre qu'il vaut mieux répondre à vos questions que de vous faire écouter les réponses que je donne à mes questions. Bien, alors c'est un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi et qui pose la question suivante. Voilà, ça vient. Alors, je vous lis simultanément en hébreu et en français. Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné. Au moment où Moïse est monté la Marom, Bechaach et Ala Moshe la Marom. La Marom, ça veut dire en haut. Amrou Malaché Acharet Lifnei Akadosh Baruch Hu. Les anges du service ont dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, maître du monde, Ma Lilud Isha Benenu. Que vient faire un fils de femme parmi nous ? Et évidemment, tous les termes sont importants. Amar Lahen, le Kabel Torah. Le Kabel Torah, bas. Alors, je reprends cette première phrase. Lorsque Moïse est monté en haut pour Sous-entendu, pour recevoir la Torah, les anges du service ont dit devant le Saint béni soit-il, « Maître du monde, que vient faire un fils de femme parmi nous ?» Il leur a répondu, « Pour recevoir la Torah. » Il est bien évident que lorsque l'histoire humaine arrive à une étape où l'on pressent, où l'on peut pressentir, tant d'après le jugement des hommes que d'après le jugement du Créateur, que la réussite est possible, alors il faut authentifier cette réussite. Il y a eu une histoire d'Israël jusqu'au moment de la sortie d'Égypte, et au moment de la sortie d'Égypte se constitue une société qui, soit contrainte par l'histoire, soit par vocation profonde depuis les ancêtres, les patriarches, décide d'accepter cet enjeu d'authentifier l'histoire humaine en acceptant ce que par la suite la tradition juive de la Torah nomme la Torah, c'est-à-dire la charte qui puisse légaliser et normaliser le projet de la création. Et dès que cet événement apparaît, alors apparaissent aussi ce que le Midrash appelle Malachi Hasharet, c'est-à-dire littéralement les anges du service, et je voudrais d'abord expliquer cette expression. La relation entre le Créateur et la créature ne peut pas être une relation simple. Parce que la créature, déjà au niveau philosophique, se définit comme étant dans le monde de la multiplicité. Il y a différents niveaux dans les étapes d'évolution et de réussite de la créature, du point de vue même du projet du Créateur, et par conséquent, il est inévitable qu'apparaissent, du point de vue du Créateur, différents niveaux de sa volonté concernant le projet d'un monde réussi. Ce qu'en général le vocabulaire biblique appelle les anges, les malachim, désigne cette réalité très précise de la volonté générale du Créateur, mais telle qu'elle se différencie, telle qu'elle se particularise par rapport à telle ou telle créature. D'une façon, si vous voulez, plus générale ou plus banale, on dira que chaque créature a son ange, son malach. Ce n'est pas autre chose que la volonté de Dieu pour lui, pour elle, pour elle la créature, mais telle qu'elle se développe à l'étape où se trouve la créature. Le projet ultime, c'est ce que nous appelons en langage théologique l'être des béatitudes, l'être de l'identité humaine réussie, l'être du bonheur, l'être de Olam Haba, l'être d'un monde réussi. Mais nous nous trouvons, chacun d'entre nous, à une certaine étape de la réussite de ce projet unique et toujours le même pour tous, de la part du Créateur unique. Ce projet, finalement, n'a été dévoilé qu'aux prophètes. C'est-à-dire, seuls les prophètes ont eu cette capacité de pouvoir voir et par conséquent, par la suite, décrire, chacun dans son style, chacun à sa manière, de pouvoir décrire ce que le Créateur voulait faire du monde qu'il a créé. Mais dans l'existence, dans l'histoire, chaque créature se trouve à une certaine étape de ce projet. Mais, de façon permanente, il y a une providence du Créateur, et la manière dont la volonté ultime du Créateur atteint l'être en cours d'histoire, c'est cela l'ange qui lui correspond. Dire en fin de compte, à la limite, il ne sera pas faux de dire que les anges n'existent pas. Les anges n'existent pas dans la mesure où on comprend que c'est toujours le Créateur lui-même, mais dans une relation très précise, très singulière, très particulière, avec chaque créature à l'étape de son histoire où elle se trouve et au stade de sa propre ascension vers l'être des béatitudes ou vers le monde à venir. Je crois qu'il serait aussi plus précis de dire que, dans le sens de la relation entre Dieu et l'homme, il y a toute une hiérarchie d'anges, donc, qui correspondent à toute la hiérarchie de niveau des créatures, mais dans le sens de la créature à Dieu, de l'homme à Dieu, il n'y a pas d'ange. Et nous retrouvons là une consigne de la liturgie, que, bien entendu, nous avons le devoir de respecter tant dans l'étude que dans la liturgie elle-même, de respecter ces hiérarchies qui vont de Dieu à l'homme, mais nous avons interdiction absolue de faire passer aucun culte vers cette hiérarchie dans le sens de l'homme à Dieu. Ou, en d'autres termes, entre Dieu et l'homme, il y a une infinité, ensof, de hiérarchie d'anges, pour garder ce terme très général et générique, mais de l'homme à Dieu, il n'y a rien. L'idolâtrie, c'est le fait de mal comprendre le sens de l'homme à Dieu et de s'arrêter à une de ces hiérarchies angéliques qui sont réelles dans l'autre sens. Je vais essayer de vous donner, si vous voulez, pour éclairer cela, une image empruntée à la biologie, ou à la chimie, je ne sais plus, je me souviens de mon cours de seconde au lycée. C'est le problème de l'osmose. Il y a des substances qui permettent l'osmose dans un sens et pas dans l'autre. C'est à peu près ce même genre de concept. Eh bien, disons qu'il y a osmose d'un côté, mais pas de l'autre. Il y a effectivement hiérarchie de Dieu à l'homme, mais pas de l'homme à Dieu. Alors, les Malachi HaSharet, finalement, c'est Dieu lui-même, mais conçu d'une autre manière que le principe du créateur vers la créature, conçu dans tous les, si vous voulez, niveaux de relais qu'il y a entre le projet unique du créateur pour tous et les niveaux de réussite provisoires ou les niveaux de réussite intermédiaires que les créatures ont pu réaliser. Alors ce monde angélique, ce monde des anges, comme vous le comprenez bien, est donc un monde qui nous est caché, par définition, et il n'y a pas simplement la définition que je vous ai donnée de l'ange, il y a des catégories très différentes, qui en français deviennent les anges, les archanges, les séraphins, les ophanimes, tout ce que vous voudrez. Enfin, tout ça, vous ne préoccupez pas de tout ça, ça existe, mais dans un seul sens, et pas dans le sens de l'homme à Dieu, mais dans le sens de Dieu à l'homme. Et lorsque il y a un jugement apporté sur une certaine étape de l'histoire, alors nous disons dans le langage du Midrash que Dieu rassemble la famille d'en haut, familia shel Marla, c'est-à-dire son Beit Din, son tribunal, et prend conseil de son tribunal, mais il s'agit, si vous voulez, d'une sorte, en langage humain, d'une sorte de réflexion intérieure à Dieu en tant que créateur, et où il se parle à lui-même, mais en parlant à ce que nous avons nommé les anges, c'est-à-dire sa propre souveraineté par rapport à l'état actuel contingent de telle ou telle de ses créatures. Je ne sais pas si je suis arrivé à vous traduire maintenant ce que signifie Malachi HaSharet. Est-ce que c'est bien clair? Bon, alors voilà donc que lorsque Moïse monte en haut, sous-entendu pour recevoir la Torah, il y a un débat intérieur au monde divin, à la divinité unique d'ailleurs, et ce débat est nommé en termes de Midrash, une parole, un dialogue entre Dieu et les anges. Les anges vont entreprendre d'empêcher Dieu de donner la Torah à Moïse. C'est l'objet du Midrash. Par rapport à cette première analyse, je crois qu'on pourrait donner comme référence un commentaire qui se trouve dans le Zohar, que je vous ai d'ailleurs souvent cité, il me semble, concernant la définition du ciel qui est donnée dans le Maase Bereshit, dans le récit de l'œuvre de la création. Le Maase Bereshit dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas et qu'il a installé un firmament, un horizon, si vous voulez, entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et le Zohar pose la question, pourquoi il est écrit entre les eaux qui sont en bas du firmament et entre les eaux qui sont en haut du firmament, et non pas l'inverse. Vous comprenez? Que le Rakiar sépare entre les eaux qui sont en dessous du ciel et les eaux qui sont en dessus du ciel, et cette précision était inutile, il suffisait de dire que le Rakiar, que le firmament, ce que nous appelons le ciel, sépare entre les eaux. Nous savons qu'il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il suffisait de dire que le firmament sépare entre les eaux. Alors le Zohar explique que la séparation ne va que dans un sens. La séparation ne va que entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, mais elle n'est pas entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire le monde d'en haut voit le monde d'en bas, mais le monde d'en bas ne voit pas le monde d'en haut. Est-ce que c'est bien clair? C'est à peu près dans le même sens. Les anges sont une hiérarchie qui vont de Dieu à l'homme, mais pas de l'homme à Dieu. L'erreur de l'idolâtrie serait de rendre réel, aussi dans le sens de bas en haut, ce qui n'est réel que dans le sens de haut en bas. Mais inversement, il faut savoir que le monde d'en haut surveille le monde d'en bas et le juge de façon permanente. Donc les Malachi HaSharet sont la volonté de Dieu telle qu'elle se différencie, telle qu'elle se spécifie par rapport à ce qui se passe dans l'histoire d'en bas. En quelque sorte, tout se passe comme si la liberté est en bas, pas seulement tout se passe comme si, la liberté est en bas, La liberté façonne l'histoire du monde que Dieu a créé, mais il y a une sorte de contre-coup en haut qui juge cette histoire qui se fait. C'est toujours Dieu lui-même, mais étant donné que nous sommes toujours dans le temps du monde d'en bas, à une certaine étape de réussite du projet du Créateur, alors les anges sont très différents, et dans le temps et dans l'espace, si j'ose dire. Il y a une multitude d'anges qui correspondent à chacun de nos actes, à chacune de nos pensées, à chacune de nos initiatives, à chacune de nos réussites ou de nos échecs, ou à chacune de nos tentations. C'est tout ce monde angélique qui est Dieu lui-même, mais, figuré, différencié, multiplié du point de vue de ce qui se passe dans le monde d'en bas. Alors vous comprenez pourquoi je peux dire dans le langage du Midrash, simultanément, que les anges n'existent pas et que pourtant il n'existe que des anges. Voilà donc les Malaché HaSharet. Les Malaché HaSharet, c'est la providence de Dieu telle qu'elle est différenciée par rapport aux événements qui se passent dans le monde de la création. Et voilà donc que nous sommes arrivés à une étape importante de l'histoire du monde. Il y a une société humaine qui, à la suite de son expérience en Égypte, à la suite aussi de l'éducation qu'elle se transmet et qu'elle reçoit déjà depuis le temps des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, arrive à se constituer en société qui serait prête, sous la direction de Moïse, à relever le défi de la création. Le défi de la création, c'est que Dieu a créé un monde à partir du néant, et que pour que ce monde existe vraiment, alors il faut qu'il le mérite. Encore une fois, la charte de ce mérite, c'est ce que nous nommons la Torah, c'est-à-dire la loi morale. Toutes les sociétés peuvent définir ce que pourrait être la loi morale. Nous savons par tradition que seule la loi morale, telle qu'elle est définie, corollairement à la société d'Israël, est la loi morale absolue. Et c'est d'elle que nos textes parlent lorsqu'ils parlent de la révélation de la loi. Eh bien, nous avons déjà expliqué ces trois expressions, que Moïse est monté en haut, c'est-à-dire à un niveau du monde qui nous accompagne et qui est déjà de notre temps ce que l'histoire de notre monde réussi et abouti arrivera à obtenir dans la catégorie du monde à venir. Je veux dire que ce que nous nommons le monde d'en haut, Marom ou Meromim, c'est très exactement à l'indice de ce monde-ci ce que le monde à venir sera. Si vous voulez, horizontalement, ce monde-ci arrivera à être le monde à venir, mais verticalement, le monde à venir est déjà présent en tant que monde d'en haut de notre monde à nous. Et Moïse allant chercher la Torah, c'est Moïse allant dans l'avenir le plus ultime, un avenir où la société humaine coïncidera avec la loi morale, avec le projet du Créateur. Par conséquent, Moïse projeté dans cet avenir, c'est Moïse monté en haut. Et là, il se heurte aux Malaché HaSharet, parce que les Malaché HaSharet qui sont en haut ne sont pas encore satisfaits de l'état du monde. Les Malaché HaSharet jugent l'état du monde au temps historique où Moïse monte en haut. Mais Moïse monte en haut dans un temps projeté qui est celui de la fin des temps, qui serait celui d'un monde où l'homme aurait déjà mérité l'être de la perfection et l'être des béatitudes. D'où le conflit. Et d'ailleurs, ce conflit est permanent. À chaque instant de l'histoire du monde, il y a un Moïse qui se heurte au Malaché HaSharet. Et nous allons suivre en détail le déroulement de ce dialogue. Alors les Malaché HaSharet sont étonnés en disant « Ma ilud isha benenu » « Que vient faire un fils de femme parmi nous ?» Vous pensez bien qu'un tel texte que nous avons par écrit depuis près de 2000 ans a suscité énormément de commentaires et bien entendu je choisis une des lignes de direction de pensée uniquement. On pourra d'ailleurs enrichir cela par la suite plus exactement. Lorsque Dieu dit aux anges « Il est venu recevoir la Torah », alors les anges, « Amrou le fanav », les anges ont dit devant Dieu « Hamouda gnouza, chez gnouzalach, Charméot, Véchivrim, Valvaradot, une chose précieuse qui était cachée chez toi pendant exactement 984 ans, 74 ans, pardon, pendant 974 générations, avant que le monde ne soit créé, tu voudrais maintenant la donner à un être fait de chair et de sang, les Basarvadam. Alors il y a expliqué ce chiffre de 974 ans avant la création de génération, avant la création du monde. Bien, nous savons que Moïse a reçu la Torah à la 26e génération après la création du monde. Effectivement, de Adam jusqu'à Noar, il y a 10 générations. De Noar à Abraham, il y a 10 générations. D'Abraham à Moshe, il y en a 6. Il y a donc 26 générations depuis Adam jusqu'à Moïse. Et nous savons d'autre part que il y a eu 1000 générations qui définissent les différents niveaux de valeur et de signification de la Torah. Par conséquent, en fin de compte, le Midrash dit très exactement que c'est 974 générations avant le temps où nous nous trouvons que la Torah a été préparée pour être donnée au monde. Mais de façon plus générale, ça signifie que les anges mettent en évidence l'importance de cette Torah. Indépendamment du chiffre qui implique que le temps était venu de la donner quand même, cela signifie que si l'histoire du monde a un sens, c'est par rapport à une référence de valeur qui en même temps juge l'histoire du monde. Et voilà que apparaît un projet inattendu. En fin de compte, voilà que Dieu décide, dans le raisonnement des anges, Dieu décide de se défaire de la prérogative du jugement de l'histoire au nom de la Torah, c'est-à-dire au nom des valeurs qui font que le monde a un sens, pour confier cette prérogative à ce que les anges nomment un fils de femme ou un être de chair et de sang, c'est-à-dire à la créature elle-même. Se produit là un événement important qui motive la manière dont le Maharal avait posé la question. C'est-à-dire le fait même que la Torah soit révélée par Dieu à l'homme est absolument inattendu. Parce que cela signifie que Dieu va se dépouiller de la prérogative d'avoir à juger le sens de l'histoire du monde. Et il faut bien savoir que nous retrouvons ce thème dans toute l'atmosphère de la tradition juive parlant de ce fait. À partir du moment où Israël a accepté d'être jugé d'après la Torah, où Israël a accepté que son histoire propre et spécifique soit mise en jugement d'après la loi morale absolue, à partir de ce moment même, Dieu renonce, semble-t-il, ou apparemment, à la prérogative d'être seul à décider de ce jugement et confie les attendus de ce jugement à l'identité d'Israël elle-même. Nous avons d'autres textes dans le Midrash qui l'expliquent de la manière suivante. En cours de discussion quant à la jurisprudence ou à la législation à appliquer au nom de la Torah, il arrive, nous dit le Midrash, que Dieu demande conseil, je vais vous étonner, mais que Dieu demande conseil aux rabbins. C'est-à-dire que très souvent, le Talmud raconte que la discussion s'arrête dans le Sanhédrin ou dans la Yeshiva de Jérusalem parce que une voix du ciel demande un renseignement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir en haut comment décider. Alors on demande à Israël comment faut-il décider quant aux attendus de la loi morale et du jugement de l'histoire. Vous voyez bien, je vous parle déjà moins en termes midrashiques, puisque ça rejoint un peu la réalité. Ça veut dire que puisqu'il est arrivé un événement historique aussi important qu'Israël, sous la direction de Moïse, accepte d'entreprendre cette ascension qui consiste à demander à Dieu de donner la Torah sur terre, alors corollairement, cela signifie que Dieu a à se dépouiller d'une partie de ses prérogatives et de confier aux sages d'Israël d'avoir à décider ce qui est le bien et le mal pour la poursuite de l'histoire du monde. Et c'est bien ainsi qu'effectivement la tradition talmudique en parle à tous ces niveaux. Je vous raconterai en très courte parenthèse un de ces enseignements. À un certain moment, il était arrivé le temps où un très célèbre rabbin du Talmud devait mourir. Mais il était tellement pur, tellement saint, que l'ange de la mort n'avait pas le courage de s'approcher de lui pour prendre son âme, dit le Midrash. Et alors Dieu a envoyé l'ange de la mort plusieurs fois successivement. L'ange de la mort est toujours retourné chez Dieu, tremblant, en disant, de ce rabbin-là, je ne peux pas m'approcher. Et pourtant, le temps était arrivé, il fallait que cette âme remonte au ciel, etc. Alors, en fin de compte, Dieu s'est servi d'une stratégie que je vais vous décrire. Il a posé dans l'histoire humaine un problème difficile à trancher qui finalement s'est répercuté à la yeshiva où enseignait ce rav. Et il fallait décider d'un certain problème si c'était tamé ou tahor, si c'était pur ou impur. Et on a discuté longtemps et finalement une voix est descendue du ciel et a demandé au rav de la yeshiva de donner la réponse. Alors pour donner la réponse, il a fallu que le rav lève les yeux de sa Torah et il a donc il s'est mis en danger puisqu'il a cessé la relation entre lui et la Torah. L'ange de la mort pouvait donc prendre son âme. Effectivement, on a posé la question d'en haut. Il a levé les yeux pour dire c'est tahor, que c'est pur, et pendant qu'il disait que c'est tahor, l'ange de la mort a pu prendre son âme. On apprend par là que ce rav est mort dans le moule pur. Mais, si vous voulez, ce midrash éclaire bien, je pense, notre problème, c'est qu'à partir du moment où la créature accepte cet enjeu d'avoir à être jugée d'après la loi absolue, alors elle se trouve être investie de la prérogative d'avoir à dire ce qu'est la loi absolue. Parce que, finalement, l'histoire se fait dans le monde de la réalité et non pas dans le monde des anges, comme nous le verrons dans la suite du Midrash. Et c'est cette prérogative qui éclaire déjà la réponse que le Maharal donnera à notre question. Comment se fait-il que la révélation puisse se faire? Comment se fait-il que l'homme, alors qu'il est en cours d'histoire et donc en cours d'imperfection, puisse capter, percevoir, recevoir la révélation de la vérité morale absolue? Puisqu'on comprend bien que du point de vue du projet de la Torah, il ne s'agit pas du tout de définir Israël dans le sens d'une subjectivité morale, ou plus exactement d'une relativité morale, mais dans le sens de la société qui est le dépositaire de l'exigence absolue de la moralité telle que le Créateur l'a conçue comme enjeu de l'être. Eh bien, nous avons donc une première réponse, c'est d'abord dans le courage pour une société d'avoir à accepter d'être jugée par rapport à cette même loi. Et à partir de ce moment, il est bien évident qu'une partie des prérogatives du Créateur par rapport à la définition de la morale est confiée à Israël. Alors c'est de cela que les anges n'ont pas... ont peur, si, ont peur, je dirais aussi pourquoi, mais c'est cela que les anges contestent. Et vous voyez bien que ce débat est à l'intérieur du projet de Dieu lui-même. Que vont-ils faire de cela? Il y a une valeur qui fait que le monde a une valeur, et cette valeur précède le monde depuis déjà 1000 générations, 26 générations se sont passées, et le temps est arrivé où une société humaine a le courage de déléguer son chef pour monter en haut, comme si il y avait déjà une projection d'Israël dans l'avenir. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, Moïse monté en haut, c'est Israël déjà arrivé au bout de l'histoire. Et à ce moment-là, nous sommes quand même en cours d'histoire. Alors, les anges craignent que la Torah soit gâchée, puisque Dieu va confier le sort et le sens de l'histoire du monde à une société humaine, mais une société humaine, ça veut dire fils de femme, ou chair et sang, d'après les expressions du Midrash, ça veut dire que la Torah risque d'être gâchée. Ou si vous voulez, en d'autres termes, les anges, c'est-à-dire Dieu, savent ce que l'homme a fait du monde, et la dernière chance que le monde puisse être transfiguré et sauvé, c'est quand même ce monde des valeurs qui reste en haut, c'est-à-dire qui ne sera atteint qu'en fin de compte. Au fond, les anges ont toute la patience des éternités pour attendre que le monde mérite cette perfection, et voilà que au moment de risquer cet enjeu, eh bien, il y a cette crainte que le monde soit gâché. et que le monde soit gâché par ceux-là même qui auraient été les meilleurs parmi le monde, cet Israël sorti d'Égypte, ayant le courage d'accepter la loi morale, mais il y a toujours ce risque que le monde soit gâché si la Torah est gâchée. Comprenez que l'humanité tout entière, c'est-à-dire l'égoïme, est fait du monde un champ de bataille ou une tombe au lieu d'un berceau, si j'ose dire, au fond c'est pas grave du point de vue des anges. Au fond c'est pas grave parce que l'histoire de l'humanité peut se perpétuer d'âge en âge et de génération en génération et on pourra toujours reconduire l'échéance le plus loin possible. Mais que Israël risque de gâcher la Torah, qu'Israël risque de perdre cette chance unique de la révélation, ça c'est beaucoup plus grave. Voilà au fond le raisonnement des anges. C'est l'idée générale, d'autre part, que c'est le tribunal terrestre, humain, qui est au fond responsable de la dignité des valeurs. La justice ne vaut que ce que les tribunaux en font. Bien, nous retrouvons ici le même thème. L'histoire du monde pourrait continuer longtemps à être une préhistoire, à être une jungle, à être l'histoire d'une espèce animale parmi les autres. Au fond, tout cela peut continuer très longtemps jusqu'à ce que germe l'humanité vraie, mais que Dieu se décide à révéler aux hommes la seule loi possible pour la réussite du monde et avec le monde de tous les univers, à un peuple non encore préparé à la perfection telle que les anges la connaissent déjà, alors ce serait un enjeu trop grave. Voilà pourquoi donc Dieu hésite à donner la Torah à Moïse. Dans cette discussion entre les anges et Dieu, c'est une discussion entre Dieu et lui-même, comme nous l'avons dit. Et à ce propos, les anges citent un verset qui se trouve dans les psaumes. Ma enosh qui tiskerenu, que peut être l'homme que tu tiennes compte de lui, ou Ben Adam et le fils de l'homme qui tiskerenu, que tu, c'est à peu près synonyme, que tu en tiennes compte. Hachem Adonenu, Seigneur notre Maître, ma dir shimcha bechol haaret, combien est redoutable ton nom sur toute la terre, Asher tenachotra ala shamay. Ainsi donc, mets ta gloire sur le ciel. Dans le ciel, à la Shamaï, au-dessus du ciel. Je voudrais vous dire tout à l'heure que par définition, les anges sont athées, j'essaierai de vous expliquer ça tout à l'heure, et que par conséquent, il était normal que la Torah soit donnée aux hommes, parce que seuls les hommes sont capables d'être croyants. Mais ce n'est pas du tout un paradoxe, enfin nous verrons cela tout à l'heure. Mais malgré tout, on voit dans ce verset, qui est un verset humain, qui est un verset pour l'homme, les anges devenir pieux, puisque c'est là qu'ils nomment Dieu Hachem Adonenu, Seigneur notre Maître. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse pour éclairer un peu l'exégèse du verset. Au fond, ce que les anges veulent dire dans ce verset nous est maintenant assez clair, c'est que sur terre, la Torah risque d'être gâchée, parce que la terre est le lieu d'habitation des hommes, et les hommes, eh bien c'est Ben Adam, le fils de la première créature qui a fauté, de la première créature qui a connu les valeurs, et c'est sa grande dignité, mais malgré tout, il a fait la preuve de son échec par rapport aux valeurs, et puis d'autre part, Enoch, le premier, comme vous le savez pour ceux qui ont étudié les généalogies bibliques, le premier descendant d'Adam qui a osé être idolâtre, c'est-à-dire oublier de se souvenir qu'il avait un créateur. Et voilà que donc les anges sont inquiets. Les hommes, jusqu'au temps de Moïse, n'ont pas du tout donné la preuve qu'ils étaient capables de la lucidité, de la perfection par rapport aux valeurs morales telles que Dieu lui-même les a projetées. Effectivement, jusqu'au temps de Moïse, c'est l'histoire de l'idolâtrie, c'est l'histoire de la faute, c'est l'histoire du monde transformé en une sorte d'impossibilité d'aboutir à l'être des béatitudes qui était le projet du Créateur. Et voilà qu'il apparaît une sorte de société très fruste, très grossière du point de vue de la civilisation du temps, les Hébreux sortis d'Égypte. Et que cette société entreprend de prendre sous sa responsabilité la prérogative d'avoir à dire quel est le bien et quel est le mal pour tout le déroulement de l'histoire. Alors on comprend l'inquiétude des anges. Est-ce que c'est bien clair? Hein? Voilà donc le verset. Les anges disent, ton nom est redoutable sur toute la terre, alors laisse ta gloire dans le ciel. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un chidouche que je voudrais vous citer, j'ai entendu à Jérusalem, et qui éclaire peut-être, en tout cas au niveau formel, de façon très précise, quelle était l'intention des anges dans ce verset cité. On remarque une chose, tous les mots qui définissent l'homme commencent par la lettre Aleph. Par exemple, Adam, ou Enosh, ou Ish. Puis on remarque une deuxième chose, c'est que dans les sept mots du premier verset de la Bible, Bereshit, Bara Elohim, et Hashamayim et Haaretz, qui décrivent le projet de la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En hébreu, ces sept mots comportent tous la lettre Aleph, sauf le mot Shamayim. Vous voyez déjà l'idée qu'il y a là, c'est-à-dire que l'identité humaine, en tant que créature, a sa place partout dans l'être, sauf dans cet endroit de l'être où réside le principe du jugement de l'histoire qui se fait à travers l'homme. C'est un peu compliqué comme formule, mais vous comprenez, je pense. C'est-à-dire, la lettre Aleph, qui commence le mot de Adam, ou le mot de Ish, ou le mot de Enosh, se trouve dans les sept premiers mots de la Bible, dans les sept mots du premier verset de la Bible, qui décrivent la création de l'univers, sauf dans le mot qui signifie le ciel, Shamayim. Est-ce que c'est bien clair? Je vous marquais ce mot au tableau tout à l'heure. Or, on apprend d'autre part que ces sept premiers mots du premier verset de la Bible correspondent à cette vertu, à cette midot, enfin à cette médiation que les kabbalistes appellent les sphirot, entre le créateur et la créature. Je vous les énumère d'après leur nom classique, et cela se trouve dit dans un certain nombre de versets que nous disons dans la prière de tous les jours d'ailleurs. Lecha Hashem Agedula Vegebura Vetiferet Vaharot Vanesach Kichol Vashem Vahar. Alors, Bereshit correspond à la mida de Chesed, qui signifie la générosité. Dans la relation entre le créateur et la créature, il y a un monde angélique, si vous voulez, qui s'appelle la générosité. Bon, ça c'est très facile à définir. Le fait que Dieu ait créé un monde, qu'il ait donné l'être à autrui, à autre que lui, c'est un acte de générosité. Chesed. Olam Chesed Ibane. Ça c'est le mot Bereshit et il y a un Aleph. Ensuite, il y a la modalité de la rigueur. Geburah. Din. C'est le mot de Bara. D'ailleurs, tout cela va ensemble. Bereshit c'est Chesed. Bara c'est Geburah. Et. Elohim. Tiferet, la magnificence de la révélation du Créateur par rapport au monde créé, lorsque se révèle qui est le Créateur dans le monde, alors il y a dans le monde un reflet de magnificence, ça s'appelle Tiferet. Elohim. Et, qui introduit le mot de Hashamayim, au commencement Dieu créa quoi? Le ciel. Ce quoi, intraduisible en français, et, c'est la sphira de Netzach. Et c'est ce qui va avec, Nessar ça veut dire l'éternité, par conséquent il y a un reflet de ce qui va avec Dieu dans le monde, et ça s'appelle en hébreu Nessar, c'est-à-dire l'éternité. Et Hashamayim, c'est la sphira Hod. Hod ça veut dire aussi la splendeur, mais pas dans le sens de la magnificence, mais c'est correspondant à Nessar. Ve'et, c'est la sphira de Yesod, Haaret, c'est la sphira de Malchut. Alors vous voyez que nous avons dans ce verset, dans les sept mots de ce verset, dans tous les mots, la lettre Aleph, sauf dans le mot Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a donc une relation directe à toutes les médiations entre le Créateur et la créature, sauf avec cette médiation qui s'appelle le ciel, et où se situe cette contestation des anges, c'est-à-dire le principe du jugement qui accompagne toute l'histoire jusqu'à ce qu'elle ait abouti. En d'autres termes, une fois de plus, ce que les anges veulent faire comprendre, c'est-à-dire le scrupule de Dieu décidant de donner la Torah à Israël à travers Moïse, c'est que, finalement, tant que l'histoire est en cours de tentative, on ne peut pas être sûr qu'elle réussira, et livrer les clés de la réussite à un être en cours de tentative, c'est périlleux, risqué, dangereux. Est-ce que c'est bien clair comme idée? Et au fond, c'est tout le problème que le peuple de la révélation a vécu, c'est-à-dire d'avoir le pressentiment qu'effectivement il possède la clé des valeurs, mais qu'en fin de compte il risque de gâcher toutes ces valeurs et donc l'histoire du monde, parce que, étant encore en cours de réussite. Plus si vous voulez, l'idée est au fond très simple. À 15 cm du rivage, on peut encore se noyer. Enfin, seul ce nageur qui a entrepris d'aller jusqu'au rivage pourra y arriver, mais tant qu'il n'est pas arrivé, il est toujours dans le risque de se noyer. Et voilà donc ce que Dieu craint dans la crainte des anges, d'avoir à livrer à Israël la loi morale, mais si jamais Israël ne réussit pas, il n'y a plus aucune chance que le monde réussisse, puisque la loi serait gâchée. C'est la Torah, telle qu'Israël la donne, qui est la Torah de Dieu. C'est dans la yeshiva d'en bas qu'on décide ce qui se décide dans la yeshiva d'en haut. Alors vous voyez le risque, vous voyez le péril. C'est cela l'inquiétude des anges que formule ce mirage. Et alors, je crois qu'il est très important de remarquer qu'effectivement, le verset cité par les anges dit « Tena hodcha ala shamayim ». C'est effectivement la sphira de Hod qui est très exactement à la place du mot de Shamaïm dans le verset tel que vous avez remarqué dans l'énumération que je vous ai donnée. Bereshit, Chesed, Bara, Gebura, Elohim, Tiferet, Et, Netzach, HaShamaïm, Hod. C'est bien clair? Alors c'est pourquoi les anges disent Tena Hodcha ala Shamaïm. En fait, d'après le commentaire de Rashi, il y a aussi un aleph dans le mot de Shamaïm. Effectivement, si vous lisez Rashi sur ce verset, vous verrez que Rashi explique que le mot de Shamaïm doit se lire en réalité Esh Umaïm. Esh Umaïm, ça veut dire le feu et l'eau. Effectivement, Rashi définit le ciel, Shamaïm, comme étant le lieu de conciliation entre le feu et l'eau. Et par conséquent, en réalité, le mot de Shamaïm a aussi un aleph, qui est le aleph du mot Esh, qui y a dans Esh Umaïm de Shamaïm. Voilà. Shamaïm, c'est le ciel. Hein? Et Rashi dit que Shamaïm, c'est Esh Umaïm. Vous avez Shamaïm, Esh Umaïm. Alors, il y a quand même un aleph dans Shamaïm, mais il est caché. Vous suivez? Bien, alors je reprends cela pour tout le monde. Vous voyez le mot de Shamaïm, qui signifie le ciel. Rashi explique que Shamaïm, c'est une combinaison de deux mots, Esh ou Maïm. Il cite le Midrash. Esh signifie le feu, et Maïm signifie l'eau. Ça me rappelle un tout autre Midrash. Lorsque les Goïm félicitent Israël d'avoir accepté que un des critères de leur jugement soit la paix, et vous savez que nous vivons cela à tous les âges de notre temps, Hachem, Ouz, Lamoïté, Hachem, Ivarech, Hamou, Bachalom, alors Israël répond, nous n'avons aucun mérite, nous avons appris cela de Maasé Kedera. Je ne sais pas si vous connaissez ce mirage. Maasé Kedera, ça veut dire ce qu'est capable de faire une marmite. Alors, un sage goy a demandé au Chacham, qu'est-ce que tu veux dire en disant que la paix, c'est pas tellement une performance, parce que c'est Maasé Kedera, c'est ce qui est capable de faire une marmite. Alors, le Chacham lui a expliqué de la manière suivante. Si vous mettez ensemble le feu et l'eau, ou bien l'eau éteint le feu, ou bien le feu vaporise l'eau. Mais si vous mettez entre le feu et l'eau une marmite, alors on peut manger. Alors, il dit, Shalom, c'est Maasé Kedera. La paix entre le feu et l'eau, c'est ce qui est capable de faire la marmite. Eh bien, si vous voulez, d'une certaine manière, Shamaïm représente ce même thème. D'après l'explication de Rashi, Shamaïm, c'est Esh Umaïm. Mais vous voyez bien que dans ce Esh Umaïm de Shamaïm, le Aleph est occulté. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. En tout cas, dans le langage du Midrash, Esh, le feu, représente la Midat Ad-Din, la rigueur, et Maïm représente Midat Ha-Hesed, la miséricorde. Effectivement, le ciel, c'est la conciliation, le mot Shamaïm, là où se trouve l'ensemble des anges. C'est la conciliation entre la rigueur et la miséricorde, c'est cela l'unité de Dieu. C'est lorsque tous les anges sont identifiés, résorbés, unifiés, que l'unité de Dieu apparaît. Au-delà d'ailleurs de la somme des anges possibles, puisque les anges, comme nous avons vu, ne sont que le reflet par en bas de ce qui se passe en bas. Mais il y a plus que cela en haut. Mais effectivement, par rapport à ce principe de l'unité des valeurs, qui est l'objectif de la Torah, comment se conduire de telle sorte que tant la Midat HaDin que la Midat HaRachamim soient conciliées, soient satisfaites, c'est ce que cherche la loi de la Torah, eh bien, cela se trouve dans le ciel, Ose Shalom Mimromav, cela se trouve dans le ciel, mais pas sur la terre. Devant cet enjeu de la Torah, les hommes sont incapables.